Musique, que me veux-tu ? La chronique de Gilles Cantagrel, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Liszt l'Européen, deuxième émission, dans laquelle je voudrais évoquer Liszt ermite et prophète franciscain, à l'occasion bien sûr du 200e anniversaire de sa naissance. Ce que nous venons d'entendre, ce Sanctus de la Missa Chorelis, cette musique chorale dépouillée, avec ses références évidentes à l'art de la Renaissance, en même temps qu'elle préfigure les rites choraux de Parsifal, c'est donc le Sanctus de cette messe chorale. Étonnement, n'est-ce pas, parce que l'homme que nous avons évoqué dans la première émission, l'homme de Faust, l'homme de Don Juan, le virtuose international qu'on acclame sur toutes les scènes d'Europe, l'idole des jeunes femmes de la meilleure société, bien sûr, lui qui a déclenché au piano ou à l'orchestre tant d'orages désirés, eh bien, le voici à présent devenu un pieux musicien catholique et d'une sincérité dont il est impossible de douter. D'ailleurs, je rappelle que quand il était tout jeune, il avait la vocation religieuse, il a failli entrer au séminaire et devenir prêtre. Et pour chanter « Saint, Saint, Saint et le Seigneur », pas de fracas, pas de trompette, de sonnerie triomphale selon l'usage. Tout ici mène au recueillement. La sainteté du Seigneur et même du Dieu des armées célestes, bien sûr, tout cela n'est pas l'objet d'un quelconque triomphalisme. Le recueillement. Et c'est là l'autre face de la personnalité si complexe et si riche de Liszt. Donc j'ai dit que dès sa jeunesse, il avait connu des accès de mysticisme, il avait songé à entrer dans les ordres, et plus tard, dans son amour de la nature, c'est son Dieu créateur qu'il célébrait. Rappelons-nous, je le disais la dernière fois, George Sand, accompagnant Marie Dagou et Franz lors de leur vie tumultueuse, même scandaleuse d'ailleurs aux yeux du monde, répondant à l'hôtelier de Chamonix qui leur demande d'où ils viennent. Réponse: de Dieu. Et où allez-vous ? Au ciel. Et voici qu'avec l'usure du temps et l'écume des jours, l'emprise croissante de sa compagne, la princesse Caroline von Sayn-Wittgenstein, que le pape lui refuse d'épouser au dernier moment, la mort de son fils Daniel, puis de sa fille Blandine, il rompt avec tout ce qui a fait sa vie jusqu'alors. Avec Weimar, la principauté de Weimar, où il sera resté une douzaine d'années comme directeur de la musique, il retrouve Rome, où il s'établit. Et il retrouve surtout les chemins de la foi. Au piano, il va évoquer les jeux d'eau à la Villa d'Este, mais cette eau-là, ce n'est pas celle des cascatelles que l'on voit à Tivoli à la Villa d'Este, c'est l'eau lustrale du baptême. Une autre pièce de piano, toujours dans le même recueil, va célébrer la bénédiction de Dieu dans la solitude. Et voici un Lied en allemand, « Ihr Glocken von Marling », cloche de Marling, que vous sonnez clair, quel harmonieux tintement, comme si chantait la source. Cloche de Marling, un chant sacré enveloppe comme tutélaire les sons de la terre. Emportez-moi au cœur de ce flot retentissant, cloche de Marling, ayez-moi bien en votre garde.
Glocken von Marling.
Entre-temps, au soir d'une vie turbulente, Liszt a reçu le tiers ordre franciscain, les ordres mineurs. Saint François d'Assise, son saint patron, Ferenc, son prénom en hongrois ou Franz en allemand, c'est François d'Assise. Il ne fait pas vœu de célibat ni de chasteté, c'est plus sage de sa part d'ailleurs, mais il va porter la soutane, laquelle, comme lui dit le pape, lui confère le prestige, ce qui était vrai à l'époque, plus maintenant, sans toutefois lui créer d'obligation particulière à l'égard du beau sexe. Mais ça, c'est la surface des choses. Au fond de lui-même, Liszt va devenir un authentique franciscain. Il va faire sien, peu à peu, le dépouillement dans la méditation, vivre l'expérience spirituelle de la pauvreté franciscaine. Il se réfugie à la villa d'Est, où il travaille à un chemin de croix, qu'il destine uniquement aux voix accompagnées d'un orgue. Ici encore, la méditation et le dépouillement. Pas d'orchestre, rien, aucun fracas, aucun tumulte. Il utilise les hymnes du plein chant catholique ou des chorales luthériens d'ailleurs. Il veut illustrer sa partition de gravure de Dürer. Liszt l'Européen, Liszt l'homme de culture qu'il est devenu. Voici, pour illustrer mon propos, la sixième station de Via Crucis, le chemin de la croix. Une sainte femme, Véronique, essuie le visage du Christ. Et comme par réflexe culturel et spirituel, l'abbé Liszt, comme on l'appelle, entonne le fameux Salve Caput Cruentatum du XIIIe siècle, devenu choral luthérien au XVIIe, dans la magnifique traduction allemande du poète Paul Gerhardt, « Ô Haupt voll Blut und Wunden, ô face couverte de sang et de blessures », ce choral que Jean-Sébastien Bach a utilisé à maintes reprises dans la Passion selon saint Matthieu.
Thank you.
L'orgue encore. Après les trois grandes pièces virtuoses de la maturité, voici une floraison de pages modestes, intimes, des transcriptions de musique ancienne, une évocation à la chapelle Sixtine, un hymne au pape Pie IX, un Tu es Petrus, plusieurs Ave Maria, bien d'autres petites pièces, discrètes là encore, pudiques même. Il écrit même une messe pour orgue pour accompagner et surtout susciter la méditation lors d'une messe basse. Dépouillement. Plus d'effets virtuoses, presque plus de musique aux frontières du silence. Une ascèse, comme plus tard sera celle de Webern. Et voici que sur le tard, l'abbé Liszt renoue avec sa patrie, Budapest. Il y est accueilli en héros. Il ne parle pas le hongrois, mais là-bas, on dit « Eilen Liszt Ferenc », « Vive Franz Liszt ». Et puis on parlait l'allemand, naturellement, dans l'empire des Habsbourg. Et c'est alors que s'organise ce qu'il a nommé lui-même en français sa vie trifurquée, pas bifurquée, mais trifurquée, partagée entre Rome, Budapest, et Weimar, où il est revenu. Mais il n'est pas revenu à Weimar dans la grande propriété de l'Altenburg où il vivait naguère, non. C'est dans une modeste maison, celle du jardinier de la cour, la Hofgärtnerei. Aujourd'hui, et je sais de quoi je parle, j'y vais assez souvent, rien n'a changé de ce modeste appartement si l'on en croit les photographies de l'époque. On en a fait un petit musée très touchant. Au premier étage, 3 pièces, ses pianos. Les tentures même sont restées les mêmes, des bustes, le moulage de sa main. Et c'est là que chaque été, il reçoit des élèves, des disciples venus de l'Europe entière et à qui il transmet son savoir, son expérience, sa technique, sa culture, sa sagesse. Et il compose. En fin de vie, son piano est redevenu le lieu de sa méditation, mais aussi de ses expériences qui ouvrent vers le XXe siècle. Dans une pièce qu'il nomme « Nuages gris », le fil se perd. Comme au crépuscule, on regarde le mouvement, la marche des nuages dans le ciel qui se forme et se dissipe, image fugitive, fugace. Quelle tonalité, quelle mélodie, écoutons. Et puis, il y a encore toute l'aventure avec Richard Wagner. Wagner, le compagnon de combat, l'autre apôtre de la musique de l'avenir, de la modernité, mais aussi, il faut le reconnaître, le prédateur qui a volé des thèmes à tout le monde, le prédateur qui va lui emprunter de l'argent, sans espoir de retour, bien sûr, qui va lui voler des thèmes musicaux, qui va épouser sa fille, qu'il vole à Hans von Bülow, le chef d'orchestre, qui le défend pourtant, qui va outrageusement exploiter la vénération que lui voue le roi Louis II de Bavière, mais un génie, bien sûr. Et Liszt, toujours généreux, qui accepte tout de l'ami génial qu'il admire. Lorsque Wagner meurt dans son appartement du palais Vendramin à Venise, sa dépouille est rapportée à Bayreuth, en grande pompe, traverse l'Europe. Il est inhumé dans le jardin de sa maison de Wahnfried à Bayreuth, où le rejoindront Cosima Liszt, sa femme, et puis son chien, roustes et une petite tombe à côté de la leur, avec un os dessus comme ornement. Pour Liszt, ce sera qu'il va mourir au même endroit à Bayreuth, 3 ans plus tard, pendant le festival. Ce sera la lugubre gondole qui transporte le corps et puis la tombe de son ami. Am Grab, Richard Wagners, sur la tombe de Richard Wagner. Liszt, lui, va revenir en pèlerinage à Bayreuth après la mort de son ami, quasiment anonyme. Il vit en état de déréliction, comme saint François dans les Eremitani à Assise, dans une espèce de niche, littéralement. Et c'est à Bayreuth donc qu'il meurt au début du festival de 1886, 3 ans après Wagner. Il est enterré non pas auprès de Wagner, il l'aurait mérité, mais tout simplement dans le cimetière de la ville. Il faut chercher d'ailleurs pour trouver sa tombe, une petite chapelle qui abrite sa tombe, solitaire, fleurie toujours par des patriotes hongrois. Ma vie n'est et ne sera qu'une longue dissonance non résolue, avait-il dit. C'est vrai de sa vie, mais aussi de sa musique. Ce pèlerin de l'Europe est aussi un errant de la tonalité, le prophète d'un langage musical nouveau. Il accumule les dissonances, les modulations saisissantes. Et voici qu'en fin de vie, il finit par échapper radicalement à toutes les conventions de la musique tonale. Il est devenu, comme il le dit lui-même, celui qui lance son javelot dans les espaces indéfinis de l'avenir. On dit quelquefois les espaces infinis. Non, Liszt a bien écrit dans les espaces indéfinis de l'avenir. Et j'ajoute encore une chose. Sur le fronton de la petite chapelle du cimetière de Bayreuth, on a inscrit ce magnifique vers du livre de Job dans l'Ancien Testament « Je sais que mon Rédempteur vit ». Voilà pour l'abbé Liszt. Et la pièce est la plus caractéristique, sans doute, de ses dernières œuvres, ses œuvres de la pauvreté franciscaine, de la déréliction. C'est assurément cette bagatelle sans tonalité qui ouvre sur le XXe siècle, en échappant à toutes les lois jusque-là admises dans l'art musical. Il mourra peu après. Thank you. En guise de conclusion, rappelons-nous tout de même le virtuose échevelé qui a fasciné l'Europe avec la deuxième de ses rhapsodies hongroises, si connue et évidemment interprétée en 1956 par l'inimitable Csifra György, autrement dit Georges Csifra.
Thank you. Thank you.